L'attitude de Fabrice face à la recherche était d'une banalité accomplie. Comme beaucoup, il aimait à répéter « Cet été, je relis Proust ». Et naturellement, il le faisait d'autant moins qu'il ne l'avait jamais lu. Il se moquait ainsi de lui-même, ignorant l'invitation, aussi pressante que pédante, de Madame de Cambremer dans le temps retrouvé. Relisez ce que Schopenhauer dit de la musique, qui lui vaut d'être mouché par la duchesse de Guermantes, dont Fabrice ne découvrit l'existence précisément qu'en la lisant. Relisez est un chef-d'œuvre. Ah non, ça, par exemple, il ne faut pas nous la faire. Alors, note Proust, le vieux d'Albon sourit en reconnaissant une des formes de l'esprit Guermantes. Lire Proust, ce n'est pas que l'idée lui déplaisait. Seulement, il ne la sentait pas. C'était idiot, mais l'œuvre lui faisait peur. Il craignait de s'y ennuyer, de la trouver dépassée, décalée, pédante, précieuse, de perdre son temps en lisant les états d'âme d'un homosexuel asthmatique, de se noyer dans un océan de phrases interminables, bourré de subjonctifs désuets, de s'endormir à la lecture de considérations que d'autres, pas lui, juré, son éducation ne l'y poussait pas, appelaient sans détour de la branlette intellectuelle et de l'engueulage de mouches. Il n'envisageait pas moins de plonger dedans, sûr qu'il pourrait y prendre un certain plaisir, mais plus tard, beaucoup plus tard. Marcel faisait procrastiner Fabrice, qui avait acheté les trois volumes de la Pléiade dans l'édition Clarac et Ferré au milieu des années 1980. Depuis, il dormait dans sa bibliothèque et rien ne laissait présager de leur réveil. Il lui arriva bien d'ouvrir le premier tome, mais il n'en parcourait qu'une dizaine de pages, il n'accrochait pas, était distrait et n'insistait pas. Sa seule intuition était que la recherche ne pouvait qu'être lue sans interruption, entendons sans intercaler d'autres lectures et dans l'ordre de la tomaison. Il pensait pourtant que l'œuvre ne proposait d'autres intrigues que les tourments intérieurs et les préoccupations mondaines de l'auteur, ce qui lui paraissait insuffisant pour le convaincre de persévérer. Mais maintenant, il avait bouclé une part de sa vie. Si sa lettre à la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray avait été postée dans la capitale, c'est qu'il venait d'y débarquer. Il n'y habitait pas. Après un demi-siècle à Paris et 10 ans aux Antilles, il s'était retiré en Afrique. Le mot « retiré » doit être pris au pied de la lettre. Le pays où il avait posé ses bagages avait été choisi sur le seul critère qu'il avait été baptisé le quartier latin de ce continent. Il n'y côtoyait guère ses compatriotes, dont il constatait qu'ils y perdaient les principes directeurs qui les guidaient en France, sautant sur chaque occasion de regretter les aspects positifs de la colonisation. Lui-même, au demeurant, ne se livrait pas trop à l'introspection critique, quand il s'en tenait à des arguments d'une simplicité peut-être simpliste. J'ai beau chercher, je ne vois pas la responsabilité de mon pays dans un illettrisme qui frappe 80% des habitants un demi-siècle après l'indépendance, disait-il. Une fois de plus, ces décisions relevaient plus du hasard que de la nécessité. Sa femme rêvait d'Afrique. Non qu'elle fût saisie de quelque aspiration à retourner sur la terre de ses origines, martiniquaise, aux ancêtres vendus, achetés, arrachés et transplantés. Elle n'avait cure de ce semblant d'appel que seuls évoquent ceux qui se considéreraient comme déconstruits en quittant leur sol replanté. comme débilité en renouant avec un passé violent, sauvage, indigne d'eux, réinventé en contempteur d'une civilisation dont ils tirent profit goulûment. Elle, c'était par la littérature sud-africaine qu'elle avait été conquise. Le fantasme noir n'appartenait pas à son existence, l'envie n'était que fort intellectualisée. « J'épouse votre projet de vie, lui avait-il répondu, car ce couple se vouvoyait. Vous avez choisi le continent, je choisis le pays. » Cette pratique du « vous » ne relevait ni du snobisme ni de toute autre posture. Il n'avait pas profité du traditionnel moment intime qui pousse au tutoiement, maintenant qu'on se connaît mieux, pour l'abandonner. Ils avaient conservé le « vous » du début. Certes, Patrice avait toujours vouvoyé ses parents aussi. Il se rappela qu'un jour, il s'était fait casser le nez par un démon ayant fait irruption dans sa radio, à un moment où il était seul avec le flashman à la rédaction. L'homme hurlait à son encontre des « t'es qu'un enculé » et des « je vais te péter ta petite gueule de pédé ». Il eut la réponse qui ne pouvait que provoquer le coup de poing qu'il reçut dans la figure. « Mais moi, monsieur, je ne vous tutoie pas. » Et inconsciemment, il avait rejoué une scène autrement plus dramatique. Pendant la guerre, des Waffen-SS avaient torturé sa mère chez elle pour qu'elle révèle où était son mari maquisard. Et alors que le chef leur intimait « Tu vas parler !» elle avait répondu « Mais enfin, de quel droit me tutoyez-vous » avant de s'évanouir. Eh bien, 10 lustres plus tard, Fabrice perpétuait avec son épouse la tradition du « vous » sans s'enorgueillir ni s'en désoler. Ceux qui paraissaient pour la galerie n'avaient pas relevé d'un choix. Décidément, il ne contrôlait pas grand-chose. Le couple tourna donc la page gentillesse pour ouvrir un chapitre africain dont, cette fois encore, il jurait qu'il durerait toujours. La vie se charge de placer des déconvenues qui brisent les promesses. La femme de Fabrice aspirait à travailler pour le développement de sa nouvelle terre aux côtés des décideurs économiques. Lui n'ambitionnait que de transmettre aux jeunes générations ce qu'il avait engrangé en 4 décennies d'activité professionnelle. Jusqu'à présent, il n'avait pensé qu'à lui, et le temps lui paraissait venu de ne pas se désintéresser des autres. En réalité, c'était encore pour sa propre satisfaction qu'il se consacrait à eux. Intimement convaincu que l'altruisme humain, qui n'est pas égoïste, est stérile. Un citron met des mois à mûrir. Quelques secondes suffisent pour le presser. Il comptait bien que son savoir fût pressuré jusqu'à l'ultime goutte. Les lieux de formation ne manquaient pas et il fut ravi d'être sollicité au-delà de ses espoirs. Bénéficiant d'une retraite raisonnable pour la France, mais splendide dans un pays en développement, il avait atteint la sérénité de ceux qui, professant que toute peine mérite salaire, se contrefichent de ce qu'ils gagnent, n'ayant pas un besoin vital d'argent. Il s'était donc organisé une existence béate, mélange de cours, de promenades, d'arrosage du jardin de sa spacieuse villa paladienne, d'un rosacée étrange, bâti en dehors de la ville énervée. Il gardait pour lui un rapprochement qu'il mettait mal à l'aise. Il y avait à côté de sa maison, qui était pourvue de 4 salles de bain, une avec un jacuzzi et 6 toilettes. Alors qu'il croisait chaque matin des hommes qui venaient se laver dans un puits au milieu d'un terrain vague et faire leurs besoins sur la plage voisine, malgré le dérisoire panneau menaçant défense de chier sous peine d'amende de 5 000 francs. Et il escomptait aussi l'idée, et s'était imposé d'évidence, faire de cette demeure chic un endroit où l'on cause intelligemment. L'accueillant pays avait permis des rencontres avec quelques artistes renommés, écrivains honorés, théâtreux célébrés, égéries fortunées et expatriés concernés. Le partage définissait sa quête. Loin des Verdurins et pour cause, il en ignorait le mode de vie. Il rêvait sa salle de séjour en salon, avec ses invités et pour eux. Il aspirait à réunir, grouper, mettre en valeur, s'effacer, servir de trait d'union. Sexagénaire comblé, était-il prêt à rencontrer Proust?